Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Ça fait plaisir de vous savoir très nombreux. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio La Nouvelle Génération. Nous y sommes. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. 4 décès enregistrés dont 2 ce lundi à l'hôpital Saint-Jean de Dieu d'Afagna. Une trentaine de personnes y sont actuellement hospitalisées, bénéficiant de soins médicaux adéquats. Du personnel de santé a été mobilisé et des médicaments ont été mis à disposition pour faire face à la situation. C'est le tableau que présente l'intoxication alimentaire dans le village de Kpetsu, dans le Bamono. D'abord, l'apparition de cas de diarrhée aiguë dans le village de Kpetsu suite à la consommation d'un aliment local appelé humbli sans cahier cuit d'animaux a interpellé les autorités sanitaires qui rassurent la situation est sous contrôle. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a alerté par ses équipes sur le terrain a immédiatement réagi. Le ministre professeur Tindari a donné des instructions claires pour le déploiement rapide des équipes techniques sur place en vue d'identifier les causes exactes de l'incident et prévenir toute propagation. Il s'agit d'une intoxication alimentaire localisée. Toutes les mesures ont été prises pour assurer une prise en charge rapide et gratuite des patients, a confirmé une source au sein du ministère. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse et nous allons en parler dans cette émission. Bien sûr, nous aborderons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin, et ce mardi bien sûr, 29 juillet 2025. Et bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Guetomega était à la mise en onde, Jérôme Akouta sur la mise en ligne, je suis Pascal Ossou au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéko, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez le privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous savez que vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Un Club de la Presse, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au mardi. Eric Parcourt-Jodjosson est là. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour chers invités, chers amis, auditrices et auditeurs de Canal FM. Je vous salue.
Eric, j'espère que vous allez bien.
Oui, tout va bien à part cette fatigue de la route. Lomé-Cara, vous savez... On était à Kara pour suivre un peu les Evala.
Tout à fait.
Et donc, on est rentré un peu fatigué, mais tout va bien. Tout va bien. Et
l'essentiel est que tout s'est bien passé.
Ah oui, évidemment. On a profité, visité encore plus la région. ce qui nous a permis de découvrir beaucoup de choses et sur le plan culturel, touristique et autres. Hein. Nous avons fait de petits reportages hein, sur la région et je pense que tout s'est bien passé.
La valorisation de notre culture, voilà, je pense quand même que c'est quelque chose qui est très important et il est important à tout, pour tout citoyen quand même de savoir valoriser sa culture.
Et il faut se ressourcer un peu dans nos régions. Vous savez, le rendement hein, qu'on a dans nos administrations et surtout dans nos entreprises privées est synonyme de cette culture-là hein, qu'on n'arrive pas à sortir de notre milieu de vie hein, pendant longtemps, alors que, évidemment, comme je le dis toujours, le tourisme local est très important et ça permet de se ressourcer. Et vous imaginez quelqu'un qui a fait 30 ans de service et il n'a jamais bougé de son coin, vous imaginez ce que ça peut donner. Donc évidemment oui,
c'est très important.
Parfois vous y allez et c'est comme si hein, vous rajeunissez hein. Hein, madame ne va pas me démentir, hein. Et c'est très important quand même de sortir un peu de son cadre de vie, de son cadre de travail, et aller découvrir de nouvelles choses. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur notre territoire.
Justement, il y a beaucoup de choses à découvrir sur notre territoire.
Je vais vous étonner. Au cours d'une finale dans le canton de Pia, un confrère est allé sur la montagne et depuis là-bas, il regardait la lutte. Et donc, il m'a informé, et curieux, j'ai tenté le coup, mais c'est splendide ce que vous découvrez. Vous découvrez à ce niveau. Et ça m'a permis de toucher du doigt les réalités de cette population-là. Et évidemment, c'est des gens qui sont forcément agricoles, et quand vous voyez sur quelle terre ils cultivent et leur technique hein, de culture et tout ça, c'est fabuleux.
C'est fabuleux. Fabuleux. Et il est très important d'aller à la découverte, même d'ailleurs, de ces richesses culturelles. Vous l'avez salué, Madame Kutukalo Tassim, bonjour.
Bonjour.
Madame, j'espère que vous allez bien.
Oui, je vais bien. Je vais bien par la grâce de Dieu.
J'espère que vous aimez la culture aussi.
Ah, bien sûr, et j'en parle dans mes œuvres d'ailleurs.
Tout à fait.
Le problème, c'est que on n'a pas cette mentalité de la bougeotte. On ne bouge pas, on ne commence pas à travailler, on est sur place. Et puis, il faut aussi dire que pendant longtemps, il y a de ces préjugés-là. Les gens croient que quand on parle de l'intérieur, c'est la brousse. Or, ce n'est pas vrai.
Non, pas du tout.
Ce n'est pas vrai. Et là, il faut aller. Moi, j'exhorte ceux qui sont nés à Lomé, je les exhorte à faire un tour.
Et vice versa.
Voilà. Oui, vice versa.
Non, très souvent, les gens descendent. Très souvent, les gens descendent, mais
parce que la capitale attire.
C'est vrai, la capitale attire. Et peut-être on va parler de moyens, sinon il serait bien que le tourisme domestique soit développé.
Évidemment.
Soit développé. Parce que moi, personnellement, je suis du Nord, mais pendant longtemps, je ne connais pas d'Apan. Mon père y avait travaillé, mais je n'étais pas avec lui. Alors, une année, je dis, mais attends, ce n'est pas normal que je vive dans mon pays, que je sois, mais le reste, là, je ne connais pas. Alors, j'ai décidé, peut-être une vacance là, de me déplacer sans avoir de connaissances. Je me suis déplacée, je suis allée à Bassar, je suis allée à Dapan jusqu'à Saint-Cassé. Et ça fait du bien.
Oui, ça fait du bien. Et même ce que moi j'ai constaté, c'est que quand on élargit même d'ailleurs son espace, on va pour la découverte alors d'autres contrées, on élargit également sa connaissance.
Et effectivement. Parce que quand vous allez, vous découvrez l'autre et vous apprenez de lui également. C'est surtout ça. Vous apprenez, tout à l'heure, il a parlé de technique. La technique de culture en pays cabillet ne se reproduit pas au sud. Hein. Voilà, il y a une certaine technique parce que c'est une région un peu montagneuse. Donc, il y a une technique qui est pratiquée dans la culture. Et là, vraiment, quelquefois, quand vous regardez la technique, là, vous appréciez les efforts fournis par les paysans.
Tout à fait.
Voilà. Donc, je nous exhorte tous les Togolais à bouger.
C'est important.
Parce qu'il y a des gens, très souvent on en parle, il y a des gens qui sont nés à Lomé, qui n'ont même pas franchi Agoué.
Agoué.
C'est grave.
Ah, mais là, c'est grave.
Voilà. Donc,
merci beaucoup, madame. Nous sommes rejoints par Esaïe Edo. Esaïe, bonjour.
Oui, bonjour, Pascal. Bonjour, auditeurs et auditrices. Bonjour, bien évidemment, aux confrères et à l'invité qui sont autour du plateau.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va. On rend grâce à Dieu parce que ce matin encore, il nous a fait grâce. On a l'énergie nécessaire pour pouvoir effectuer le déplacement et tout. Donc, on ne peut que dire merci à Dieu. Voilà.
D'accord. Disons merci à Dieu. Madame, si vous êtes avec nous, c'est parce que notre tradition, chaque mardi, nous faisons d'abord deux chroniques sur un ouvrage donné. Et après avoir fait la chronique avec Claude Assiobotis, notre chroniqueur et aussi écrivain, et critique littéraire, conseiller littéraire, nous invitons l'auteur de cet ouvrage. Et donc, il s'est fait que... votre ouvrage a fait l'objet de ces chroniques, des deux chroniques. Et maintenant, nous vous invitons pour que vous prononciez sur votre ouvrage. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire CAMES et enseignant. Vous enseignez aussi la littérature aux universités du Togo. Et pourquoi pas en dehors du Togo. Vous avez été grand prix de la poésie togolaise 2020. Vous êtes aussi prosateur, auteur de Les Enfants de Midi, qui vient faire l'objet de nos chroniques. Et c'est un livre savoureux qui décrit la condition de la seconde épouse à travers le regard d'un de ses enfants, tous abandonnés. Et c'est aussi le récit sur l'implication même, l'intrusion de la famille de l'époux dans le foyer africain. Et plus que le foyer polygamique, c'est l'infidélité pathétique et incurable du mari africain que vous ciblez dans votre livre. Et la tradition veut qu'à la fin alors de nos deux chroniques, nos auditeurs écoutent aussi la voix de l'auteur sur son œuvre. Alors, madame, à vous lire, on dirait que pour vous, le sexe masculin constitue en lui seul une maladie que vous êtes en train de diagnostiquer. Plus d'une épouse à sa portée, l'homme passe encore sa vie à promener et à planter sa virilité dans le champ d'autres femmes et à l'élaborer, selon votre propre image, bien sûr. Et qu'est-ce qui explique votre regard si pessimiste sur le mari africain, madame?
Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation et cet honneur. Très souvent, nos collègues sur le campus même, donc ils me taxent de féministe, d'abord, et ils trouvent que j'insulte, entre guillemets, les hommes. Et pour cela, il y en a même qui me détestent. Oh. Alors, c'est ça. Mais je voudrais dire qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui crée au regard de la vie de sa société, au regard de la vie même au-delà de sa société, de la vie telle que vécue dans le monde entier. Alors, ce n'est pas parler d'une maladie, c'est vrai. D'un point de vue, on peut considérer ça comme une maladie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une exagération dans la vie d'infidélité chez certains hommes. Et ça devient une maladie. Quelqu'un, imaginez un homme, là je ne parle pas de l'œuvre,
oui.
Un homme qui a sa femme légitime et puis 5 copines dehors. Ça, c'est de la maladie. Moi, je dis que c'est de la maladie parce que je ne sais pas comment ce monsieur-là s'y prend pour gérer les 5 copines dehors et la femme à la maison. Mais quand vous parlez de l'homme, l'Africain, effectivement, partout il y a l'infidélité. Hein. Dans les pays du Nord, partout il y a l'infidélité.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi criard que chez nous,
c'est ça? Exactement. C'est ce que je voulais dire. C'est très criard. Et quelquefois, quand je réfléchis, j'observe les faits, je me demande si le sida est inhumé, n'existe plus. C'est-à-dire les gens vivent comme si rien n'existait. Enfin, de nuisance du côté sexuel ou sensuel. Les gens, ils vivent, ils se laissent aller. Mais en même temps, vous voyez, quand vous analysez également la fin de ceux qui choisissent, c'est un choix. C'est un choix que certains hommes délibérément...
Avec ses conséquences.
Voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire. Que quand vous observez, vous les observez jusqu'à la fin, la vie devient tragique. Parce que ils se sont tellement investis, entre guillemets, dans les jambes des femmes, qu'à la fin, soit ils meurent de façon tragique, soit c'est un malheur qui les frappe, comme le personnage Kwaku Kwakan de l'œuvre. Mais d'une manière générale, leur fin n'est pas enviable. Leur fin n'est pas enviable. Je ne suis pas là pour sensibiliser. L'auteur écrit, mais les lecteurs en font ce qu'ils veulent.
Tout à fait.
Voilà. Donc, c'est une maladie d'une part, mais d'autre part, si on considère la conception africaine de la virilité, ben, on va dire que ce n'est pas une maladie, parce qu'un homme qui pisse un peu partout, on va dire que c'est parce qu'il est viril. Mais dans notre société moderne, ça devient une maladie, simplement.
Et simplement, ça devient une maladie. Alors, madame, c'est vrai, pourquoi à la place alors d'une narratrice, une fille qui serait mieux placée pour raconter hein, tant d'histoires intimes sur sa mère, vous avez préféré donner la parole à un narrateur, un garçon, pour raconter l'histoire de sa mère?
Oui. Pourquoi un garçon au lieu d'une fille? Alors, dans mon premier roman, je suis le fils de quiconque même. J'avais mis également le titre, le fils de quiconque même. Et il y a un collègue qui m'a interpellé pourquoi je n'ai pas dit je suis la fille de quiconque même. Et je lui ai expliqué qu'en réalité, quand il y a un garçon dans un groupe et fille, on parle de il. Mais ici, pour qu'un garçon, les garçons plus dégourdis. Les garçons sont plus dégourdis. Les garçons sont plus dégourdis. Et on dit... Si vous voulez savoir, si la femme veut savoir ce qui se passe en son absence avec l'époux, le garçon, il va vous raconter dans les détails ce qui s'est passé.
Ah bon?
Ah oui, il va vous raconter.
C'est un constat?
C'est un constat. Il va vous raconter, mais la fille est plus souvent, hein, très souvent, les femmes ou les petits-enfants qui sont des filles, sont introvertis. Elles parlent peu. Donc, la curiosité, j'ai un petit garçon, il sort tout ce qui se passe dehors là. Lui, il est au courant, il revient, il te raconte ça. Mais si c'est une fille, elle va observer, certes, mais elle ne dira pas grand-chose. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que le garçon, c'est l'aîné. C'est l'aîné et c'est lui qui observe, qui voit ce qui se passe, ce que vit sa mère, ce que eux-mêmes ils vivent. Puisque quand le monsieur arrive chez la maman, ce ne sont pas les enfants qui l'intéressent, mais c'est la femme. Donc l'enfant observe tout. Et en réalité, c'est la vie des enfants, c'est la misère que vivent ces enfants conçus hors mariage que je voulais exposer. Ce n'est pas vraiment la vie de l'épouse. L'épouse, c'est une personne âgée. Elle subit quand même, mais elle se défend. Par rapport aux enfants, c'est un peu compliqué de souffrir de l'absence de l'amour paternel. Donc, que ce soit un garçon qui raconte, je me dis, et que c'est les enfants qui racontent le plus. On dit très souvent dans la culture veut que s'il y a il doit avoir guerre ou quelque chose dans un pays, c'est les enfants
tout à fait
qui sont les premiers à donner la nouvelle.
Donc, pour ce qui concerne le secret même d'ailleurs, d'habitude, vous allez écouter cela auprès des enfants. Voilà, madame, c'est vrai qu'à vous lire, le parcours de cette mère nommée Patty est bien tragicomique, puisqu'à la fin, c'est le mari qui meurt et elle autre s'en sort plutôt bien. Et dans la première partie où elle tente de récupérer son homme, elle tombe sur un pasteur qui, au lieu d'être son adjuvant, de l'aider à récupérer ce mari absent et vagabond, va plutôt alors la violer. Est-ce qu'en allant voir ce pasteur en mettant une robe qui met en relief ses rondeurs, elle est plutôt complice ou une simple victime, madame?
Naïvement, elle est à la fois complice et victime. Parce que, c'est vrai, en allant voir le pasteur, elle voulait mettre en exergue sa féminité. Ce qui explique qu'elle ait porté une robe moulante. Mais déjà, le fait de porter la robe moulante, elle est complice de ce qui lui est arrivé. Parce que vous allez pour un problème et puis vous allez en dire un autre. Parce que là, elle était devenue un problème pour le pasteur. Le fait qu'elle ait exhibé ses rondeurs et autres, la prière du pasteur n'était plus la vraie prière. Le pasteur priait, mais il avait son esprit ailleurs.
Où ses yeux, un peu de distraction.
Ses yeux étaient portés sur... Son regard était porté sur Patty. Donc, ce qui explique qu'elle soit à la fois complice et victime.
D'accord. Oui, madame, c'est vrai, on remarque aussi une évolution très rapide dans l'habillement de cette villageoise arrivée en ville pour le mariage. Alors, vous ne montrez pas au lecteur comment s'est opérée cette évolution, madame?
Alors, c'est un choix. Et là, je me réfère, je pense à Guy de Maupassant qui disait que la vie est pleine d'événements que si vous voulez compter tout, vous risquez d'en faire des livres. Maintenant, quand vous racontez en tant qu'écrivain, vous hiérarchisez les faits. Il y en a qui vous paraissent importants, donc dans l'évolution et du récit jusqu'au dénouement, mais il y en a qui paraissent, peut-être que je n'avais pas besoin de décrire la métamorphose de l'héroïne en quelque sorte du personnage de Patty. Puisque la belle-mère était là pour faire le travail dans les coulisses. Donc, moi, je n'avais pas besoin d'exposer cette métamorphose-là. Donc, à mon sens, peut-être le lecteur dira ce qu'il veut au sujet de... Enfin, ces ellipses, on appelle ça des ellipses, parce qu'on dit. Donc, j'ai décidé de passer là-dessus. Parce que
Le lecteur fera son idée,
voilà. Bien sûr. Voilà. D'accord. Donc, en analysant l'œuvre, il est libre d'analyser les ellipses
tout à
également.
Fait. Tout
voilà.
À fait. Alors, ce roman a l'allure plus classique, linéaire et fluide que vos premiers récits, dont la narration était souvent éclatée, proche de ce qu'on a appelé en littérature le nouveau roman. Et, alors, madame, qu'est-ce qui explique ce changement dans votre écriture ou dans votre style?
Alors, d'une manière générale, je le dis pour tous les écrivains, l'écrivain ne moule pas tous ses récits dans un même style. Mais moi, s'il faut me prononcer sur mes premiers écrits, ces récits ont leur origine dans mes influences. D'influence, donc les auteurs qui m'ont influencé, comme les Sony Laboutancy, les Aimé Césaire. Donc, j'avais envie aussi de faire travailler le lecteur. Parce que quand c'est classique, le lecteur ne réfléchit pas trop. Donc, il suit la linéarité du récit jusqu'au bout. Mais quand c'est enchâssé, quand c'est le style nouveau roman, le lecteur est obligé de faire plus d'efforts pour reconstruire la linéarité de l'intrigue. Et là, c'est une bonne chose à mon avis, parce que ça m'a permis, et je le dis très souvent, quand j'étais en année de licence, il y avait La vie est dimie au programme, commencé la lecture, j'ai été rebutée, j'ai laissé tomber. Donc c'est quand je suis revenue à l'université pour le DEA que j'avais repris la lettre du roman et j'ai réussi à décortiquer l'essentiel du message que Sony voulait passer. C'est vrai que ça donne du travail, mais ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir et ça permet au lecteur de se construire également.
Et puisque la lecture a également l'autre effet de se construire.
Exactement.
Justement. Eric, voilà, vous avez écouté madame dans ses explications. Si vous avez une question ou une observation.
Et bien sûr.
Et c'est tout à fait comme toujours.
Oui, quand vous... Personnellement, je n'ai pas lu Les Enfants de Midi. Mais avec ce que Claude nous a présenté, ce que vous me venez dire, il me manque quelque chose. C'est le rôle de la femme dans ce qui se passe dans nos sociétés. Quand on accuse l'homme d'être malade, mais est-ce que la femme n'a pas une responsabilité dans ça? Je n'ai pas entendu parler de ça. Et de l'autre côté, je voudrais dire très sincèrement, je suis étonné d'entendre que des universitaires vous combattent par rapport à vos œuvres intellectuelles. Je suis désolé de le dire parce que, quelque part, ils sont la vitrine hein, de cet intellectualisme dans notre pays. Donc, une œuvre... elle ne peut pas constituer un objet de dissension entre collègues. Je ne sais pas, mais ça m'a vraiment touché. J'ai voulu m'exprimer ainsi pour dire que non, ça ne devrait pas être le cas. Il va falloir que les gens comprennent que l'écriture, ça nous permet de nous remettre en cause. Parce que c'est vrai, ici, on parle des hommes, nous sommes des hommes, et nous devons nous poser des questions par rapport à ce qui a été écrit. Et pourquoi la femme a choisi ce sujet-là? C'est parce que ça devient redondant dans la société, et il fallait quand même apporter quelque chose. Je crois que c'est l'ouverture d'esprit qu'il faut avoir en ce moment.
D'accord. Et madame,
voilà. Oui.
Réponse à la question.
Oui, ouais, je vais réagir par rapport à son commentaire au sujet des collègues. Vous voyez, si quelqu'un était là, vous parlez d'ouverture d'esprit, il va encore prendre cela pour insulte.
Oh non.
Parce que quand j'ai dit au collègue qui était appelé au sujet de pourquoi le fils de quiconque même et non la fille, et je lui ai dit, au fait, bon, pour d'esprit limité, alors en parlant des élèves du collège, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'esprit mature sur le plan littéraire, critique et autres. Mais il est allé se plaindre quelque part que moi je l'ai insulté. Bon, j'ai dit, écoutez, bon, il trouve que je l'ai insulté, c'est tant mieux. Mais, pour revenir à la question, le rôle de la femme, bon, vous n'avez pas lu l'œuvre. Si c'est que vous avez lu l'œuvre, vous saurez que Passy, Dame Passy s'est bien battue. D'abord pour conserver son foyer. Et quand le mari est passé de malheur en malheur, elle l'a récupéré. C'est Dame Passy qui l'a récupéré parce qu'elle a réussi par rapport à l'épouse légale qui comptait uniquement sur le mari, sur les ressources du mari. Passy, elle s'est battue dans le commerce et elle a réussi. Ses enfants aussi ont réussi, elle les a envoyés à l'étranger. Mais elle a récupéré parce qu'au sorti de prison, la première épouse a vendu la maison. Donc, le personnage de Kwaku ne savait où aller. C'est elle qui s'est en prison, le récupérer, la ramener dans sa maison, la loger et mettre une domestique à sa disposition. Elle encore, c'est une gaffe qu'il va commettre. Et c'est des faits qui existent réellement. La domestique est la proie des hommes mariés.
Et c'est dans la société, bien sûr, ça se passe, bien sûr.
Ça se passe. Donc, la domestique est la proie des hommes mariés. Et je dis, si elle pouvait parler, si elles pouvaient prendre la parole pour raconter ce qu'elles vivent. Donc, c'est un drame. Passy met tout à disposition du monsieur et maintenant, pour la trahir, il couche avec la domestique. Alors, dans ce contexte-là, est-ce qu'il faut accuser la femme parce qu'elle n'a pas, elle a manqué à son devoir? Je dis non. Il y a des gens, vous pouvez couper votre tête, être sur le plateau. Le monsieur, il va sortir. Bon, maintenant, cela est dû à quoi? Je n'en sais rien. Parce qu'on dit scientifiquement que certains hommes ont quoi de plus, je ne sais pas. Donc, c'est là où ça devient une... Voilà. C'est là où ça devient une maladie. C'est vrai que les faits sont divers. Dans nos sociétés, il y a des femmes aussi, quand le monsieur commence par déconner, elles ferment le robinet, comme on le dit. Là, dans ce contexte-ci, l'homme découche, pas de problème. Parce que c'est elle qui l'a voulu.
D'accord. Alors, quand on va donner la parole aussi à Esaïe de se prononcer rapidement aussi sur justement l'intervention de madame.
Oui, c'est juste une question que j'ai. Après avoir écouté l'exposé depuis la semaine dernière avec Claude, la question que je me pose, surtout quand aujourd'hui madame nous fait une comparaison en disant que ce comportement de l'homme est une maladie. Alors, ma question est de savoir, c'est quoi finalement le remède? Parce qu'on sait aussi que, ça aussi nous l'avons dit la fois dernière, que naturellement, l'homme, c'est ce qu'il voit qui l'attire. Il ne peut pas s'empêcher d'apprécier une femme dehors. Au même moment, on ne peut pas demander à la femme de se cacher ou de ne pas justement valoriser sa beauté. Dans ces conditions, étant donné que l'homme est toujours attiré, quelle est finalement la solution à ce problème? Parce que ce n'est pas sans conséquence.
Non, mais voilà, est-ce que nous ne sommes pas dans un dilemme?
Si vous me parlez de solution, ben je sais quoi répondre. Ce n'est pas à moi de trouver la solution à ce problème-là. Alors, tout lecteur est amené à trouver une solution à partir de ce qu'il lit. C'est au lecteur de décider. Alors, voilà comment ce personnage a vécu et comment il a fini. Alors, est-ce que si j'évolue sur cette lancée ou sur cette voie, je ne vais pas finir comme lui? Et je trouve la solution à mon problème. Mais si je lis et que je suis indifférent aussi, une solution aussi. On dit refuser de choisir, c'est choisir. Parce que les filles, il y en a, hein. Vous avez c'est un monsieur qui nous amusait et quand on était plus jeune, il va tellement dire et à Bagnonto. Donc c'est continuer. Quand vous rentrez dans ce jeu là, aujourd'hui vous trouvez à Rufa, vous dites qu'elle est belle. Demain vous trouvez à quoi soit dit ah non, celle-là, elle est encore plus belle. Il faudrait que je me la tape. Donc ça va continuer, ça va devenir comment?
Une obsession.
Une obsession. Vous n'allez pas maîtriser votre vie vous-même.
Eh, madame, je pense que la solution, c'est la maîtrise de soi.
Bon.
Voilà, moi, à mon avis, bien sûr. C'est la maîtrise de soi, ce qui n'est pas facile. Voilà, ça dépend de l'étape à laquelle vous êtes aussi pour la chose.
C'est ça.
D'accord, merci beaucoup, madame, d'être passée chez nous. C'est vrai, vous pouvez rester avec nous et même se prononcer aussi sur des sujets dont nous aurons à débattre, surtout sur l'actualité. Club de la presse, merci surtout pour votre disponibilité. Voilà, Claude, Claude n'est pas là, nous le saluons au passage. Oui, Eric, ouais. C'est vrai que j'annonçais ce sujet au début à l'heure de l'émission, un sujet qui fait aussi l'actualité et déjà 4 décès enregistrés, dont 2 ce lundi, bien sûr, à l'hôpital Saint-Jean de Dieu d'Afagna. Une trentaine de personnes, ils sont actuellement hospitalisés, bénéficiant de soins médicaux adéquats, du personnel de santé également. gens a été mobilisé, des médicaments ont été mis à disposition alors pour faire face à la situation. Et nous le disons, c'est par rapport à l'indication justement de d'un aliment qui a été consommé, une viande qui a été consommée par les populations. Et hier justement le ministère de la santé s'est mobilisé alors sur le sujet. Nous avons vu également la réaction alors du ministère. Et là, par rapport même d'ailleurs à la situation, comment vous analysez cette situation, Eric?
Bon, je pense que c'est une situation vraiment déplorable, que pour une consommation, et là, tu parlais tout à l'heure de viande, pas que, si du sang, du sang, comme on l'appelle souvent,
oubli, justement,
ou que les gens raffolent tellement. Et donc, quand vous prenez, selon le ministère, les gens ont consommé cet aliment-là, acheté dans un marché, et tous ceux qui ont consommé roumbli là sont tombés malades. Et malheureusement, on a eu 4 décès sur le coup. Ça veut dire qu'il y a un toxique dans cet aliment-là que ces gens-là ont consommé. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une prise en charge des autres qui ne sont pas décédés, ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Mais il faut aller au-delà. D'où provient la bête tuée pour récupérer ce sang-là? Il faut aller chercher encore plus loin. Il faut aller dans, je ne sais pas si c'est Pétou, est-ce qu'il ne faut pas commencer par chercher déjà la contamination des autres bêtes dans le village et peut-être aller au-delà? Et moi, je pense que oui, la prise en charge, c'est une bonne chose, mais il faut aller au-delà parce que ça peut se suivre très rapidement. Et comme on dit, quand vous prenez une bête dans un cheptel qui est malade, il faut savoir qu'il y en a encore d'autres. Et moi, je mets l'accent là-dessus parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous dise qu'après, qu'il y a eu 4 ou 5 décès encore dans le village, et ce n'est qu'après qu'on découvre que c'est tous les animaux qui sont dans le secteur qui sont infectés. Donc il faut aller au-delà de la prise en charge des consommateurs de ce roumbli là.
Esaïe, déjà c'est une question de santé publique. Déjà on dénombre 4 décès et une trentaine alors de personnes qui font justement de assez d'arrêt et sont prises en charge actuellement à l'hôpital Lagnan.
Oui, santé publique bien sûr. Eric parlait tout à l'heure d'aller au-delà de la prise en charge. Je suis parfaitement d'accord. Je veux même ajouter ceci. Au-delà de vérifier, parce qu'aujourd'hui le fait est là, il faut justement vérifier, voir d'où ça provient, s'il s'agit d'une contamination. Est-ce que l'animal qui a été tué souffrait, enfin, si l'animal était contaminé et tout. Mais au-delà de cela, je pense qu'il y a quand même un service au niveau du ministère de la Santé qui normalement a pour mission de procéder à une sorte d'inspection auprès de ceux qui vendent au bord de la route, enfin pas seulement au bord de la route, la restauration et tout. Je me rappelle il y a 2 ou 4 ans, enfin 2 ou 3 ans, que j'avais fait un dossier sur ce sujet-là, ceux qui vendent au bord de la route et tout cela. Mais le constat a été que ces gens ne reçoivent presque jamais de la visite du service technique pour voir comment est-ce que ils sont organisés, comment que le lieu, déjà le lieu là où on prépare, jusqu'à ce qu'on apporte ça au bord de la route, comment est-ce qu'ils sont organisés. Ils ne reçoivent pratiquement pas de visite. Et on a été au nom de ce service qui est chargé de cette mission. Ce qui nous a été dit à l'époque, c'est qu'il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas assez de personnes pour faire les descentes et faire ce contrôle-là. Et même les écoles aussi, ils ne font pas cette descente dans les écoles aussi constater cela. Je crois que le fait, enfin, ce manque peut être à l'origine de ce que nous voyons aujourd'hui. Si préalablement, il y a le service technique qui va faire l'inspection, les visites, ça va quand même attirer l'attention de ceux qui préparent et vendent de prendre des dispositions pour éviter un certain nombre de choses. C'est vrai, on ne va pas tout de suite dire que ce qui s'est passé, que la faute provient tout de suite de cette personne qui a vendu, parce qu'on ne sait pas encore si c'est au niveau de la cuisson que les choses se sont mal passées ou que ce soit l'animal en question qui soit contaminé de base. Mais je dis ceci parce que si on prend des dispositions, on peut quand même éviter de pareilles situations que nous sommes en train de vivre. Si aujourd'hui la réalité est telle qu'il n'y a pas de personnel pour faire les descentes vérifiées, encore dans les écoles, bien évidemment, il n'y a pas cela, dans les hôtels et tout. Donc ça fait que quelque part, nous sommes exposés du moment où nous achetons au bord de la route. Ça nous arrive des fois de nous retrouver dans certains quartiers ou dans certaines maisons où ce sont des où on vend ou enfin là où on prépare pour l'amener au bord de la route. Quand vous voyez certaines choses, vous n'avez plus envie d'acheter au bord de la route, et tout cela arrive parce que il n'y a pas ce service technique pour faire ce travail. Parce que quoi, il y a pas de personnel. D'accord. C'est assez déplorable.
C'est assez déplorable, oui, madame. Et c'est vrai, c'est une situation peut-être pour ce qui concerne alors nous en tant que population. Mais est-ce que ce n'est pas à nous, population également, de constituer aussi notre propre protection sur ce plan? C'est-à-dire pour ce qui concerne la consommation des aliments que nous trouvons, et peut-être que nous pouvons acheter dans la rue, est-ce que ce n'est pas à nous, en tant que individu, en tant que population également, d'apporter une certaine protection autour de la chose?
Oui, c'est vrai. Il faut vraiment que chaque individu prenne soin de sa vie. Parce que ce qui se vend au bord de la route, ce n'est vraiment pas ça. Le commerçant, la commerçante prépare pour la rue. Mais à la maison, ce n'est pas ce qu'elle vend dans la rue qu'elle mange. Les bonnes femmes, si vous voyez ce qu'elles mettent dans les sauces et autres et que les gens vont manger, ça, on est en train, la population se tue à petit feu. Donc, il faudrait quand même que chacun prenne soin de sa vie. Parce que ce qui s'est passé là, on ne sait pas si c'est un empoisonnement.
On parle d'intoxication.
Du sang. Intoxication. Oui. Il faut qu'au début, il y a quelque chose. Peut-être pour nuire. Nous sommes en Afrique. Pour nuire aussi, quelqu'un peut s'infiltrer et mettre quelque chose. Ou bien ça dépend. Oui. Ça dépend parce que là, cela va de la renommée de la personne qui a vendu. Ceux qui sont morts et qui se battent contre la mort ont mangé. Donc cela interpelle tous les Togolais que nous sommes. Il faudrait qu'on prenne soin de nous-mêmes.
Et Eric, la dernière nouvelle, c'est que la dame. La dernière nouvelle, c'est que la dame a été arrêtée. Et ce serait. On doit lui poser justement des questions. Mais c'est dans l'ordre normal des choses.
Oui. Moi, j'allais demander, c'était ma question, est-ce que elle-même n'est pas contaminée?
Parce que est-ce qu'elle a consommé?
Voilà, quand tu prépares, il faut quand même goûter, non? Est-ce qu'elle n'a pas goûté? Est-ce qu'elle n'est pas malade? Alors, cela repose encore une autre optique. Vous voyez, madame disait tantôt que les gens préparent pour la rue. Ça veut dire qu'on ne prend pas soin de bien laver les choses, d'abord. Ça, c'est une première nécessité. Quand vous voulez préparer aux gens à manger, vous devriez forcément bien laver les choses. J'estime que le sang qu'on récupère, on oublie, là, on ne le lave pas. C'est directement recueilli, directement mis dans le mis directement au feu et voilà, prêt à être consommé. La deuxième chose, quand on demande aux gens avant d'abattre un animal, aller à l'abattoir le plus proche. Je ne sais pas si dans le milieu il y en a un, parce que là-bas, on s'occupe de l'animal pour une consommation humaine. Lorsque l'animal n'est pas traité, on ne peut pas l'envoyer à la consommation humaine. Quand on dit ça, les gens parfois contournent le service de l'abattoir pour directement tuer et faire manger. Donc aujourd'hui, quand on se trouve dans cette situation, on va traiter la dame là de tous les noms, alors qu'elle n'a fait que faire la même chose que tout le monde. Et donc, je crois que c'est là où il faut que nous prenions tous conscience de tout ceci, abattoir, avant de tuer un animal pour le consommer.
D'accord.
Et maintenant, après, quand vous voulez manger, lavez bien les aliments avant de les cuire. Et tout ça là, et surtout, il y a, par exemple, pour les laitues, enfin, je veux parler des légumes, il faut passer par des produits comme du permanganate ou comment ça s'appelle,
le potassium,
et du sel même, du sel.
C'est-à-dire les aliments crus.
Crus, il faut les bien les laver avant de les préparer.
Pour d'accord, c'est très important. Alors, oui, Eric, nous allons quitter le sujet. On s'intéresse à cet autre sujet. Vous écrivez à la une de votre journal ce matin, pause pluviométrique dans les régions du Togo, l'inquiétude des paysans face à la situation. Concrètement, qu'est-ce qui se passe et comment et quelle est cette inquiétude alors des paysans?
Alors, on est en train de parler du changement climatique et on s'amuse à dire que non, que ça c'est pour nous bluffer, que rien n'est comme ceci, rien n'est comme cela. Et il y a des chefs d'État même qui disent que changement climatique là c'est dans la tête des gens, que ce sont les écologistes qui veulent. Mais là nous sommes en train de vivre en live le changement climatique. Je parlais tantôt de techniques culturales au nord. Et là, les gens, avant d'aller au champ, ils attendent les premières pluies pour que la terre soit bien desséchée avant de commencer par planter. Mais ce qui se passe, c'est que les pluies n'arrivent plus au moment prévu. Et donc, il y a le service de la météorologie, et la NAMET, qui informe désormais par rapport à la pluviométrie dans notre pays. Et donc, quand les premières pluies sont arrivées, évidemment, les gens sont allés planter. Donc, ils attendent maintenant les prochaines pluies pour aller récolter. Mais ces pluies-là traînent. Ça veut dire que forcément, les récoltes vont se gâter ou on pourra même pas faire des trucs. Donc, aujourd'hui, les paysans sont en train de s'inquiéter de cette situation-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, la NAMET dit que les prochaines pluies vont peut-être traîner et à certains endroits du territoire, il n'y aura même pas ces pluies-là, ces prochaines pluies.
Oui.
Et donc, vous imaginez un peu ce que ça va être encore pour les paysans. Or, vous savez que quand ils récoltent, ils doivent aller vendre un peu pour préparer la rentrée à leurs enfants. C'est une situation dramatique. Et comme on le dit, il faut que nous-mêmes nous commencions. Hein, on nous a dit quoi? 1 milliard de plans en 10 ans. Hein, c'est le programme du ministère de l'Environnement. Et je ne sais pas combien sommes-nous, Togolais, à suivre ce programme-là, à aller planter. C'est important parce que ça, aujourd'hui, nous tous, nous allons encore souffrir parce que s'il n'y a pas une bonne récolte, les produits alimentaires vont coûter encore plus cher. Et déjà, les gens disent qu'ils ont faim et il y aura flambé des prix. Ça veut dire que la faim va encore s'accentuer, ça va prendre encore d'autres parts de la population et je ne sais pas comment ça va être. C'est une situation qui inquiète vraiment les paysans qui nous ont quand même un peu parlé.
D'accord, une situation qui inquiète les paysans, oui. Esaïe, c'est vrai que quand on parle alors du changement climatique, c'est une réalité et là, après l'intervention même d'ailleurs d'Eric sur ce sujet, on dirait tout simplement que les conséquences sont là aujourd'hui.
Oui, nous vivons les conséquences depuis et malheureusement, nous ne savons pas parce que les années passent et le problème du changement climatique s'aggrave davantage parce que c'est vrai, les études ont permis quand même de savoir que le problème, enfin la solution, c'est pas pour demain. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de l'adaptation, de l'atténuation et tout. Mais c'est quelque chose que nous n'arrivons pas à maîtriser, en tout cas encore pour le moment. Et dans les milieux reculés pour les agriculteurs, ce n'est pas encore quelque chose qui est rentré dans l'habitude. En tout cas, ces pratiques d'adaptation, c'est pas encore rentré dans les habitudes. Je me rappelle qu'on avait fait un débat ici par rapport aux agronomes, enfin des jeunes qui font les études d'agronomie, mais qui préfèrent aller rester dans leur bureau, ne s'intéressent pas en tout cas aux champs. Ils peuvent apporter des solutions. C'est vrai que la réalité est là, mais en ce qui concerne les conseils, l'accompagnement des agriculteurs face à cette réalité, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Je crois que c'est en cela que les agronomes et tout, les conseillers techniques en agriculture peuvent être utiles. Mais aujourd'hui, la réalité est qu'on ne les voit pas trop sur le terrain. Et en tout cas, je pense, en tout cas de mon avis, que l'État fait de son mieux en ce qui concerne les projets pour accompagner. Il y a tellement de projets aujourd'hui, mais la réalité est que les techniciens pour accompagner, je dirais que peut-être ça manque. Mais au-delà du fait que ça manque, il y a aussi ce problème d'irrigation. Face à cette réalité, il y a d'autres qui optent pour l'irrigation. Mais en Afrique...
C'est pour avoir de l'eau en permanence.
Justement. Et en Afrique, je dirais que c'est le parent pauvre de la politique agricole. Ce n'est pas encore rentré pleinement dans nos réalités parce que ça nécessite beaucoup de moyens. Et quand je reviens au Togo, le financement de l'agriculture même pose déjà un problème. Nous n'avons pas de banque agricole, c'est vrai. Il y a le mécanisme, je crois c'est MIFA, qui est mis en place. Mais ce n'est pas encore suffisant. Quand nous faisons face à cette réalité aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisant. Donc il y a quand même des solutions, mais ces solutions nécessitent de moyens, d'importants moyens. Et peut-être qu'on y arrivera, mais avant qu'on y arrive, il faut que les producteurs eux aussi acceptent et collaborent. Parce que vous savez, quand vous allez vers les agriculteurs, il y a des gens qui sont toujours campés sur les anciennes pratiques. Quand on leur conseille un certain nombre de choses, ils ne veulent pas tout de suite.
Ils sont réfractaires au changement.
Oui. Alors que la réalité, elle est là. Donc, si on ne trouve pas de solution le plus tôt possible, nous allons mourir de faim. Surtout que nous l'avons dit ici, il y a des jeunes qui quittent les champs pour la ville, pour faire autre chose, ce qui voudra dire que ça fait plusieurs problèmes pour l'agriculture.
Oui, mais madame, ce que nous évoquons est vraiment sérieux. Parce que quand le paysan a de problèmes, c'est toute la population ou le ventre qui a de problèmes.
Bien évidemment. Quand Erika a commencé par aborder le problème, j'ai souri parce que actuellement j'ai une pièce de théâtre qui va paraître plus tard à la fin de cette année, intitulée Impasse 32, qui aborde ce problème de changement climatique. Mais les causes sont multiples. Pour qu'on puisse réussir, il faudrait que... Lui, il a parlé de reboisement, mais il n'y a pas que le reboisement. Le réchauffement climatique n'est pas uniquement lié qu'à l'abattage des arbres. Alors, vous avez nos voitures que nous utilisons. Mais tout ça, les usines. Et en plus, il y a la population, la surpopulation de la planète. Les gens ont besoin de manger. Il faut abattre les arbres. Il faut détruire l'environnement pour pouvoir s'installer. Alors, quand vous allez vers le lit du Zion, les gens sont partis s'installer dans le lit. Et là, c'est des causes qui ne peuvent pas avoir de solution immédiate. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et quand vous allez dans les fermes, vous voyez les paysans abattre les arbres pour le charbon de bois, mais ils ne reboisent pas. Ils ne reboisent pas. Donc, il faudrait, pour qu'on parvienne un jour peut-être à avoir un monde équilibré du point de vue climatique, donc il faudrait qu'on revoie la fabrication, la conception des véhicules. Qu'on revoie aussi la conception des usines qui envoient fumée pour détruire la couche ozonique. Donc, il faudrait aussi qu'on revoie la population. Il faut que les gens acceptent de réduire le taux de natalité. Tout cela contribue à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai que quand il n'y a pas de pluie, c'est la fin qui s'installe. Mmh. C'est la fin qui s'annonce. Jusque-là, les gens disent qu'ils ont fait, la fin n'est pas encore là.
Donc il y aura un coup de feu.
Mais parce que c'est la réalité. Et il faudrait que les gens prennent. Maintenant, moi, c'est sur ce point-là que je peut-être j'exhorte les autorités à revoir les prix de gaz et autres pour que la plupart de la population puisse utiliser le gaz et arrêter le charbon. Là, ça sera
puisqu'il faut favoriser aussi les conditions.
Un élément en moins.
D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame.
Il faut être optimiste.
Optimiste, c'est ça. D'accord, merci. Alors, on aborde rapidement ce sujet. C'est par rapport, on sait que le vendredi dernier, le président sénégalais est venu alors rendre visite à notre pays, bien sûr. Et il était accueilli par le président du conseil. Et des journaux sont revenus alors sur le sujet. Le journal Le Correcteur est revenu sur le sujet. Le journal qui écrit fort à nouveau, tout souriant avec son nouvel ami Efré Diomaye Faye, fruit de l'alternance. Et Eric, alors la présence alors de Diomaye Faye à Lomé, le président bien sûr est sénégalais à Lomé, c'est vrai, dans le communiqué quand même de la présidence, on a compris quand même qu'il y a des sujets qui ont été débattus, des sujets de la culture, l'intégration et beaucoup d'autres sujets. Et là, on dirait tout simplement que pour ce qui concerne la coopération entre Dakar et Lomé, ça a été renforcé.
Mais je pense que quand deux chefs d'État se rencontrent, c'est justement parce qu'il y a un problème qu'il faut solutionner. Tout ce qu'on dit pour le folklore, la coopération entre les deux pays, on a signé des accords, on a créé des commissions mixtes, on a fait tout ça. Mais je pense que fondamentalement, il y a quelque chose qui discute et c'est ça qui est fait l'objet de déplacements de l'un vers l'autre. Et donc pour moi, l'axe Dakar-Lomé n'a jamais eu de problème. Et donc, si les deux chefs d'État se rencontrent, je me dis, c'est dans la logique des choses. Et quand vous lisez bien le communiqué, c'est dit sur invitation du président du Conseil togolais, le président sénégalais a fait une visite officielle. C'est bien cela.
Oui, c'est bien ça.
Et donc, je pense que c'est justement pour régler un problème. Vous savez que les deux chefs d'État, d'ailleurs, sont
les médiateurs.
Ils sont les négociateurs entre les pays de l'AES et la CDAO.
Tout à fait.
Il y a cela. Et de l'autre côté, vous savez que aujourd'hui il y a une situation au niveau de l'UEMOA où le Burkina Faso devait prendre la présidence tournante de l'UEMOA, mais à Lomé et dernièrement, il s'est passé un truc. Les autres ont refusé de remettre le truc parce que l'AES a déjà annoncé sa monnaie. Donc, ça veut dire qu'ils vont créer une nouvelle communauté économique et donc ne peut pas être dirigé l'UEMOA ici. Et donc, ça, c'est des questions que ces chefs d'État doivent explorer. Et je crois que quand Diomaye Faye était même à Cotonou, au pouvoir Talon, ils en ont effectivement parlé. Et donc, je crois qu'il y a des problèmes, des situations sur le continent. Il y a le terrorisme, le djihadisme dans le Sahel, et tout ça, ça affecte toute la sous-région. C'est des questions cruciales que les chefs d'État discutent. Et donc, entre le Lomé et Dakar, il n'y a jamais eu de problème, je ne sais pas. Et donc, je crois que c'est dans la logique des choses.
Zahir, c'est vrai que d'aucuns disent qu'il y a un non-dit dans cette visite. Au-delà de tout, comment se fait-il que, allez, pour ce qui concerne juste pour parler intégration, pour parler culture, un chef d'État qui se déplace alors pour venir vers son homologue, est-ce qu'il n'y a pas autre chose cachée derrière cette visite?
Non, n'oublions pas que ce sont des dirigeants de pays. Et quand on parle de dirigeants sur le plan diplomatique, ils ne sont pas dans l'obligation de nous dire tout de suite voilà de quoi nous avons discuté. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles, quand les chefs d'État se retrouvent, il faut qu'ils en discutent pendant un long moment, trouver un terrain d'entente avant de communiquer à la population sur
Ça engage tout un pays.
Voilà. Bien sûr, ça engage tout un pays. Donc, dans ce contexte, moi, personnellement, je ne pense pas qu'il faut faire toute une histoire autour de cette visite, du fait que les discussions n'ont pas été, enfin, les sujets réellement discutés n'ont pas été communiqués. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas au Togo seulement que cela arrive. Cela est déjà arrivé plusieurs fois. Les chefs d'État qui voyagent, pour des raisons, peut-être que le déplacement de Diomaye Faye à Lomé ne concerne pas, enfin, les questions discutées ne concernent pas le Togo, peut-être c'est la sous-région. Comme nous le disons, les deux sont des médiateurs ou négociateurs dans cette histoire de rapprochement des pays de l'AES avec la CEDEAO.
Donc, mais là aussi, sur ce point, c'est vrai que jusqu'à présent, on ne sait même pas exactement ce qui se fait. Et nous n'avons même pas encore aussi un compte-rendu alors de ce qui se fait entre les deux chefs d'État.
Oui, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des questions qui sont sensibles, sur lesquelles on ne peut pas tout de suite communiquer. Parce qu'on peut communiquer sur un sujet tout de suite, chacun fera ses commentaires et ça peut agir sur la suite des discussions. Ouais. Si aujourd'hui ils nous disent tout de suite que voilà ce que nous avons décidé en ce qui concerne le bras de fer entre l'AES et la CEDEAO, si les pays de l'AES ne sont pas d'accord, ce qui voudra dire que tout sera chamboulé. Donc, pour des questions, je ne sais pas comment je vais dire, pour que les discussions puissent arriver à terme avec des solutions durables, il y a quand même cette obligation à des moments donnés de garder silence. Si je prends par exemple la question du terrorisme, on ne communique pas toujours sur ce qui se passe, mais à des étapes données, on peut communiquer.
D'accord.
Donc si on ne communique pas, on ne va pas...
D'accord, ok. Mais merci beaucoup, chers confrères. Nous allons maintenant écouter les auditeurs, puisque c'est le principe de l'émission. Nous allons leur donner la parole de s'exprimer aussi sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Et c'est sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM.
De retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô.
Attends, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui.
C'est Basile.
Complètement bien, Basile, oui. Moi, je salue les autres en studio pour remercier la dame aussi qui a compris que la fin n'a pas encore commencé. Bon. Contrairement à ton collègue qui dit que les gens disent qu'ils ont faim, ça veut dire que non seulement lui n'a pas faim, Et ils ne croient même pas en ça. C'est ce que ça veut dire. Au Togo ici, c'est comme ça nous vivons. Mais quand est-ce que celui qui dirige va savoir qu'il y a un cri de détresse auquel il faut répondre? Jamais. Il ne le fera pas parce que lui-même, il n'en avait même pas la volonté. Et quand il voit de temps en temps, d'autres douter même de ça. Mais ça veut dire que le Togolais est laissé à lui-même.
Allô, Basile.
Oui.
Vous nous avez suivi depuis le début.
Qu'est-ce que je dis? Ils n'ont pas dit ce que j'ai dit là. La dame n'a pas dit que la paix n'a même pas encore commencé. Et l'autre dit que les Togolais disent qu'ils ont fait.
Mais vous avez, est-ce que vous avez écouté quand même la logique dans laquelle la dame l'a dit?
Non, mais la dame, je suis la précise, parce que la paix même n'a même pas encore commencé.
Oui, c'est par rapport, par rapport au changement climatique. Et aujourd'hui, les conséquences alors du changement climatique sont là, où nos productions ne sont plus abondantes. Donc, c'est pour cela quand même que la dame le dit.
Elle ouvre la problème. Ce qui est sûr, il y a une paix. Qu'elle dit que ça peut s'accentuer.
D'accord, ok.
Ça, c'est ça. Ou bien.
Oui, maintenant.
Maintenant,
oui.
Ajouter à la mauvaise volonté de celui qui nous dit de nous faire manger, ce sera insolent. Parce que moi, je vous dis. Mais au lieu que quelqu'un aussi dise que, vous savez, il y a la fin, et que les Togolais, lui, il a dit, les Togolais disent qu'ils ont fait.
D'accord, merci. Oui, merci beaucoup, Basile. Merci, 90-86-35-35-91-36-315. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo.
D'accord, allez-y.
Je vous salue, hein.
D'accord, nous
merci
vous saluons.
Merci pour les infos, surtout l'actualité dans la zone Fayen. C'est triste. Ce n'est pas d'autres signes de famine qui nous conduit jusque-là. Les gens sont contents de prendre un blé pour manger avec un pain. Donc, vous voyez le degré de seuil de la pauvreté. Même parfois, la viande que nous achetons dans les marchés, vous allez voir, c'était même sans tête. Même si le vétérinaire vérifie du coup, c'est une viande dangereuse, est-ce que cette viande-là est récupérée par le service pour l'enterrer? Point d'interrogation. Parce que nous-mêmes, parfois, on soupçonne certaines viandes. Hein? Le vétérinaire peut vérifier, mais les gens vont, ils font autre chose pour qu'ils disent qu'ils vont bien préparer. Hein? Le Togolais est en danger. Tout simplement, le pays est mal gouverné. Bonne émission.
Merci, M. Nyamavo, pour votre intervention. Allô?
90. Le messager de l'amour. Bonjour à tout le plateau.
Oui, bonjour, Oseni. J'espère que vous allez bien.
Très bien, comme un ange au ciel.
D'accord, allez-y.
Bon, moi, je veux dire, il n'y a pas de famille au Togo. Il y a juste la pauvreté qui empêche les gens de se nourrir comme il faut. Donc, il faudrait créer plus d'emplois, supprimer les taxes sur les produits et les engrais afin de faciliter et accélérer la mécanisation agricole. Merci et bonne émission.
Merci, Oseni, le messager de l'amour. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien.
Votre nom, c'est?
Oui, c'est Kosigan.
Ah, monsieur Kosigan. Vous nous appelez de quel quartier?
De Agoué.
Agoué, allez-y.
Oui, là, je crois que vous avez beaucoup débattu sur beaucoup de sujets. Mais pour ceux qui sont en train de décider de l'autre côté, vers la famille, tout ça. Là, la dame qui est là-bas, sincèrement, j'ai aimé sa réaction pour vous dire que des fois, ce n'est pas peut-être la dame même qui a peut-être allé prendre quelque chose, mais en préparant, je veux vraiment appeler tous les bonnes dames qui vendent les manger au bord du route ou dans les restos, tout ça là. Des fois, il y a des gens aussi mal intentionnés. Quand vous préparez et vous ne pouvez pas bien, il y a des gens peut-être par envie, ils viennent et vous introduisent quelque chose dedans pour qu'on puisse après vous arrêter par rapport à votre nom qui est en train d'amplifier. Je veux parler de nom. Et maintenant, pour la question de pauvreté, tout ça là, le grand frère qui vient de quitter aussi la vie, il l'a dit, seulement il faudrait qu'on revoie les tasses et tout ça là. Et je prie encore que le chef de l'État puisse libérer tout ce qu'on est en train de prendre, notamment dans des horizons culturels. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Kossigan, pour votre intervention. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour Madame Messi. Oui, bonjour, Madame Messi.
On va essayer d'être dans le manque. Et bon, vous avez parlé de, du président Sénégal qui est venu, et puis rien à filtrer, comme d'habitude, parce que le président gouverne le Togo pour lui seul. C'est-à-dire, he doesn't mind of us. Il s'en fout de nous, et il ne dit rien, et puis voilà quoi. Il gouverne pour lui seul. Et je me pose beaucoup de questions là. Comment se fait-il qu'il y a la statue Senghor, Waka, et puis Agora Senghor là, tout ça là, est-ce qu'il y a le nom de l'Olympio à Dakar au Sénégal? Moi j'ai vécu dans le Sahel là, au Sénégal, et il n'y a rien de nos deux présidents là-bas. Fait-il qu'on nous emmène ces trucs-là, ces noms ici? Hein? Il faut voir ça aussi. Et puis la fin, il n'y a pas la fin et tout. Tout ça là, il faut que ça alterne. C'est bon. Leur mandat est fini depuis 10, 20, 30, 40 ans. Il faut que ça alterne, c'est tout. C'est tout ce qu'il nous faut pour qu'on soit heureux, avoir la terre, acheter les livres et lire. Autrement, moi, j'ai bouquiné avant beaucoup, mais maintenant, j'arrête plus parce que mon cerveau a des problèmes. Voilà.
D'accord. Merci, madame. Merci. Merci, madame Messi, pour votre intervention. Allô? 90, 86, 35, 35. Allô?
Oui, bonjour, chef.
Bonjour.
De toute façon, j'ai pas un poste avec moi.
D'accord, là. Sylvain, allez-y.
Allô?
Oui, je vous écoute, allez-y.
Oui, c'est que une enquête minutieuse soit effectuée par un service digne. Un an est pour rien. Et puis, il y a un journaliste qui a posé une question. Elle a quand même, en préparant, elle a voté. Donc, il faut qu'on fasse une enquête. Parce que la vie est sacrée. Ok, merci quand même.
Merci Sylvain pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 315. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp. Nous avons un auditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien. Bonjour, merci.
Pardon?
Gérard Sébastien.
Gérard, allez-y.
Oui. Je voudrais dire, moi, je pense à ce qui s'est passé dans le moins mono ou quoi là.
Non, le bas mono.
Le bas mono, oui. Est-ce que c'est un problème de prêté? Parce que, sincèrement, moi, je pense que c'est un problème sanitaire. Il faut sincèrement interdire de ramener des trucs comme ça au marché. J'en ai vu déjà à Dacha, et c'était ma première fois de voir qu'on a étalé à même le sol, et on me dit que c'est du sang, c'est roubli, et les gens viennent payer. J'étais très étonné, j'ai jamais vu ça. Et ça fait ma deuxième fois que je l'apprends et qui met la vie des gens en danger. Il faut qu'on interdise vraiment aux gens de ramener des trucs comme ça au marché, parce que c'est pas protégé. Il y a la poussière aussi qui se dépose dessus. Et vraiment, je ne pense pas que... Je sais qu'il y a la pauvreté, mais est-ce que c'est la faim? Il y a la faim. Mais est-ce que c'est la faim qui fait manger ça? That is the question.
Merci Gérard. Et Michel, nous avons quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour Monsieur Gado.
Bonjour Plateau.
Oui, allez-y.
Bon, moi, c'est que je voulais féliciter l'UNIF. Parce que l'UNI a rassuré tout. Maintenant, l'UNI est devenue chef d'équipe des maires. Si elle ne fait pas attention, elle va devenir chef d'équipe de l'opposition. Merci, bonne journée.
Merci pour votre intervention, Monsieur Gado. Et Monsieur Gado, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Eric, vous avez écouté les uns les autres. Réaction?
Non, je voudrais commencer par Monsieur Basile, qui visiblement n'est pas quelqu'un qui écoute réellement les émissions avec discernement. Il vient avec sa passion, avec sa fougue et tout. Mais je voudrais lui dire qu'il n'est pas honnête.
Parce que quelqu'un qui arrive à appeler sur toutes les radios de Lomé, tous les jours, il appelle dans les, presque toutes les émissions et qui vient dire aux gens que lui, Basile, a faim. Non, mais si c'est pas dans une intention de chauffer un peu à blanc les gens pour les faire révolter et tout ça, lui, il appelle tous les jours, il dit qu'il a faim. Comment il arrive
mais à... Mais c'est son droit quand même.
Oui, mais il arrive à acheter le crédit. Mais il dit que moi, j'ai dit que les Togolais ont faim. Ça veut dire que moi, je n'ai pas faim. Mais avoir faim, il faut qu'il définisse la faim. Les gens disent tout simplement, il y a une situation. On est en train d'expliquer la situation. Les gens, les paysans sont inquiets de la pluviométrie qui va faire en sorte que aujourd'hui les récoltes ne seront pas meilleures par rapport aux autres années. Alors, on est en train de réfléchir. Et on dit, les gens disent qu'ils ont faim. Mais peut-être qu'avec ça, ça va s'accentuer. Tout simplement, c'est ce qu'on était en train de dire. Mais il s'attaque à moi. Je ne comprends pas. Il faut qu'il arrête ça parce que ici, c'est on est en train de réfléchir quand même. Mais par contre, par rapport aux autres, quelqu'un dit que ceux qui sont allés acheter à manger le roumbli là, mais parfois on a envie de changer un peu de nourriture. C'est pour ça qu'on est allé acheter ça. Ce n'est pas une question de pauvreté ou de richesse, mais c'est juste pour changer un peu nos habitudes de repas, c'est tout. Et donc, ce qui est arrivé...
Parce que ça se vend partout.
Voilà, ce qui est arrivé là peut arriver partout. Donc, il faudrait qu'on prenne des dispositions en amont pour éviter cela. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et je crois que la situation... sur les dérèglements climatiques, il faut qu'on prenne ça à bras le corps. Nous sommes tous des citoyens. Et ce n'est pas que quand ça se dégrade au Togo, enfin à Lomé, que ça n'aura pas de répercussions à Thiéville. Donc, et vice-versa. Donc, il faut que nous puissions tous nous dire que le dérèglement climatique nous concerne et il faut apporter quand même
merci sa beaucoup. Contribution. Merci beaucoup, Eric. Eric, votre note de fin d'émission.
Note 8 sur 10.
À qui? À vous? À vous-même? C'est la première fois quand même que je vois un confrère qui s'attribue une note. Oui. Esaïe?
Oui, moi, je reviendrai un peu sur cette affaire d'intoxication alimentaire. Je pense que tel que le ministère a réagi avec promptitude, que cela soit en tout cas le cas dans différentes situations, en tout cas on ne le souhaite pas, mais quand de pareilles situations se présentent, que la réaction soit ainsi. Maintenant, au-delà de cette prise en charge des victimes, je crois qu'il est important de trouver l'origine de cette intoxication. Et comme je le disais, il est temps également d'activer les services techniques du ministère de la Santé qui s'occupent de l'inspection ou qui font des descentes pour s'assurer de comment les bonnes dames préparent chez eux jusqu'à au bord de la route. Il est très important cela parce que ça peut permettre d'éviter de pareilles situations. Donc il faut qu'on active rapidement ce service de ce service technique.
Tout à fait.
Et s'il n'y a pas de personnel, ben il y a assez de jeunes qui cherchent du travail des jeunes qui se formaient pour donc de les recruter pour cela.
Ça me tient à cœur, hein, c'est le travail alors de ces services.
Bien évidemment.
Voilà,
bien
merci beaucoup. Votre note de fin d'émission.
Non, mais je crois que j'ai
donné. Je pense que vous n'allez pas vous attribuer quand même une note.
Non,
comme Eric l'a fait.
Je l'attribue à nous tous. Donc oui. Je nous donne 8 sur 10.
8 sur 10. Merci beaucoup, Esaïe Edo. Merci. Merci beaucoup, Esaïe Edo. Vous êtes rédacteur en chef du journal Focus Info. Merci d'être passé dans cette émission. Eric Pakoudjo Johnson, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appeler aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde de cette émission. Jérôme Dakouté a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.